Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Et ce soir, j'aimerais parler avec vous d'un des 9 dons spirituels. Nous allons parler ensemble de la parole de connaissance. Parce que c'est un des 9 dons et on ne va pas les étudier tous ce soir. Mais ce don-là n'est pas très bien connu ni très bien compris. Donc on va voir ensemble à quoi sert ce don, parce qu'il sert à quelque chose. On va voir comment il se manifestait dans la vie de Jésus. Et on va voir également une chose qui est vraiment importante, et c'est vraiment quelque chose que Dieu donne pour ce temps, qu'il y a plusieurs niveaux dans la compréhension d'un don spirituel et dans sa manifestation. Et le but, c'est que nous puissions le voir en exercice dans nos vies, au travers de nos vies, et pour la gloire de Dieu. On va commencer par lire dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et on va lire à partir du verset 7, parce que nous avons beaucoup de choses à lire, donc j'abrège un petit peu. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen.
Ngo yamara umuntu wese ahabwa ikimwerekana ko mpemu kugira ngo bigire ikimazi ngo kuko umwe aheshwa na mpemu ijambo ry'ubwenge uwundi agaheshwa n'uwo mpemu ijambo ryo kumenya uwundi agaheshwa n'uwo mpemu ukwizera uwundi agaheshwa n'uwo mpemu umwe ingabire zo gukiza indwara uwundi agahabwa gukora ibitangaza uwundi agahabwa kuvugishwa n'Imana uwundi agahabwa kurobanura impemu uwundi agahabwa kuvuga indimi nyinshi uwundi agahabwa gusobanura indimi ariko ivyo vyose uwo mpemu umwe niwe abikorera muri bo akabigira umuntu wese uko agomba akabigabira.
Il y a donc 9 dons spirituels. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament,
7
de ces dons étaient en activité. Dans la vie de Jésus également. Après la Pentecôte, après que l'Esprit de Dieu ait été donné au travers du baptême du Saint-Esprit, il y a 2 dons qui se sont rajoutés. Le parler en langue et l'interprétation des langues. Mais les 7 autres dons étaient en manifestation dans l'Ancien Testament et on va le découvrir et également dans la vie de Jésus. Donc je vous rappelle pour votre information, pour ceux qui ont fait l'IBEM et pour les autres pour vous le dire tout simplement que les dons spirituels peuvent être classés en trois catégories. Premièrement, l'inspiration, qui est la prophétie. Je vous rappelle que le but de la prophétie est d'édifier, exhorter, consoler, Deuxièmement, on parle des dons d'inspiration, le parler en langue, donc c'est donner un parler en langue, c'est pas juste parler en langue, sous une onction particulière, bien sûr. Et le troisième don d'inspiration, c'est l'interprétation des langues. Ensuite, deuxième catégorie de dons, il y a les dons de révélation. Vous savez, on a besoin de, que Dieu nous révèle certaines choses, que ce soit pour nous-mêmes, que ce soit pour prier pour quelqu'un. Amen. Donc il y a la parole de connaissance qui est une révélation par rapport à quelque chose de présent. Et on va voir au travers de la vie de Jésus dans différents domaines. Il y a la parole de sagesse. C'est une parole de révélation concernant l'avenir. Et le troisième don de révélation, c'est le discernement des esprits. C'est quand quelqu'un voit surnaturellement dans le monde spirituel. Soit une présence angélique, soit un mauvais esprit. Et bien souvent, quand ce don se met en manifestation, il va être suivi d'un autre don. Par exemple, quand quelqu'un est oppressé par un démon dans son corps et que c'est une maladie incurable qui est là, le démon est chassé et la personne est guérie. Donc à côté de ça, dans la troisième catégorie de dons, il y a les dons de puissance, un don de foi spéciale. C'est quand Dieu donne une foi vraiment spéciale à quelqu'un pour quelque chose de vraiment grand, particulier. On voit par exemple Daniel, je vous donne un exemple, Daniel, lorsqu'il a été jeté dans la fosse au lion, il a eu ce don en manifestation. Et ça a permis à Dieu de fermer la gueule des lions. On le voit de même dans la vie de Shadrach, Meshach, Abednego. Donc c'est vraiment pour des circonstances vraiment particulières, des choses que Dieu nous demande, que nous sommes absolument incapables de faire, et ça dépasse largement la simple foi par rapport aux promesses de la parole de Dieu. Puis enfin, il y a le don des guérisons et le don des miracles. Et je pense ici qu'il n'y a pas besoin de faire de longs commentaires parce que tout le monde sait de quoi il s'agit. Donc parmi les dons de révélation, il y a le don de la parole de connaissance. Et j'aimerais que nous puissions voir ensemble quelques passages qui nous montrent ce don en manifestation dans la vie de Jésus. Il faut savoir que quand le Seigneur nous révèle quelque chose par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation, ce n'est pas pour faire des commérages. Amen. Dieu n'est pas quelqu'un qui aime faire des commérages. Et quand Dieu nous montre quelque chose à propos de quelqu'un ou à propos d'une situation, il n'est pas animé par le même esprit qui anime parfois certaines personnes. Vous savez, parfois il y a des personnes, ils apprennent quelque chose sur quelqu'un et c'est comme si on leur donne un paquet de bonbons. Ils sont tellement contents. Ils vont aller en parler à gauche, ils vont en parler à droite, ils vont répéter ce qu'on leur a dit et ils vont même en rajouter un petit peu, voire même parfois beaucoup. Quand Dieu nous dit quelque chose, ce n'est pas simplement pour nous communiquer une information. Amen. C'est parce que au travers de cette information, il veut faire quelque chose de particulier. Regardons ensemble dans Marc chapitre 2, verset 3. Jésus se retrouve dans une maison, il est en train de parler à la foule. Et il y a quatre hommes qui arrivent avec un paralytique et ils le descendent au travers du toit. On va lire en français. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. » Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Et tu vas lire le verset 8 en Kirundi.
Yesu amenya mu mutima wiwe yuko biburanya muri bo batyo aca arababaza ati niki gitumye mwiburanya ivyo mu mitima yanyu.
Voyez, quand on lit cette histoire, on voit de l'extérieur un certain nombre de choses qui vont se produire.
Turabona mu buryo bw'inyuma ibintu bihava bikurikira.
Vous savez, voir avec ses yeux, c'est bien. Mais il faut aussi comprendre avec son cœur. Donc ce n'est pas difficile d'imaginer les hommes qui sont en train de porter le paralytique, qui montent sur le toit, ils découvrent le toit. Ils font descendre le paralytique au travers du toit. Mais moi, personnellement, je me suis posé la question déjà il y a longtemps. Je me suis dit, mais ces hommes, ils amènent le paralytique pour que le paralytique soit guéri. Jésus aurait dû le guérir vite fait et puis voilà, c'était terminé. Ça n'aurait pas soulevé ce problème. Qui s'est déjà dit ça? Lisez davantage la Bible. Amen. C'est dit, mais en disant ces choses, Jésus est en train d'irriter les pharisiens.
Il
est en train de les provoquer. Et ça aurait été peut-être mieux qu'ils ne le disent pas. Vous savez, Jésus, c'est quelqu'un qui ne marche jamais dans le compromis. Et je vous assure, si vous voulez voir ce genre de choses dans vos vies, vous devez apprendre à ne jamais marcher dans le compromis. Dire ce que Dieu dit, exactement ce que le Seigneur veut que vous disiez, et faire exactement ce que le Seigneur veut que vous fassiez, que ça plaise à tout le monde, ou bien que ça ne plaise pas à tout le monde. Mais ceci dit, faisons bien attention, parce que Jésus n'a jamais manqué ni d'amour, ni de sagesse, dans tout ce qu'il disait et dans tout ce qu'il faisait. C'est pour ça que je veux vraiment mettre l'accent sur la façon dont Jésus exerçait ce don. Ce n'était ni de la provocation, ni le fait de blesser qui que ce soit, mais c'était la parole qui convenait exactement à cet homme. Pourquoi Jésus a-t-il commencé par dire à l'homme qui était paralysé, tes péchés sont pardonnés? Vous savez, quand on vient voir Jésus pour une chose, c'est lui-même qui le dit dans les évangiles, notamment à Bartimée. Il lui dit, que veux-tu que je te fasse? Si tu demandes à Jésus une chose, il ne va pas t'en donner une autre. Amen. Ça arrive dans la vie de tous les jours. Tu demandes à ton travailleur de cuire des petits pois, et il va te cuire des haricots parce qu'il n'a pas écouté ce que tu as demandé et parce qu'il est habitué à cuire des haricots. Et on le voit dans tous les domaines de la vie, et on voit souvent ce genre de choses. On demande une chose à quelqu'un, il en fait une autre, et ce n'est pas le cas du Seigneur. Pourquoi Jésus a-t-il dit tes péchés sont pardonnés? Bien, c'est simple. Si Jésus a dû dire avant de le guérir, tes péchés sont pardonnés, ça nous montre une chose, c'est que la maladie de cet homme était directement liée au péché qu'il avait commis. Amen. Donc il devait d'abord être pardonné pour pouvoir ensuite être guéri. Vous savez, le Seigneur fait toujours les choses dans l'ordre. Et quand il a dit cette chose, il y a eu cette réaction vraiment négative de la part des gens religieux. Et aussitôt, dans son esprit, verset 8, Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait, pourquoi est-ce que Jésus va recevoir cette révélation? C'était pas pour mettre les pharisiens et les scribes dans l'embarras, mais c'était pour les aider. Pour les aider à sortir de leur mentalité religieuse, pour les aider à comprendre l'amour de Dieu, la puissance et la réalité de la parole de Dieu. Et il va le démontrer en disant, qu'est-ce qui est plus facile, dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi, prends ton lit et marche? Et Jésus a dit cela pour aider ces gens religieux. Il les a confrontés. Non pas pour les humilier, mais pour les aider à changer. Amen. Vous savez, c'est nous-mêmes qui pouvons nous dépouiller, nous arracher l'esprit religieux. Et bien sûr, ça n'a pas beaucoup changé de choses, parce que nous savons que les pharisiens ont toujours été les pharisiens, ainsi que les sadducéens et toutes ces personnes-là. On va lire un autre passage dans lequel on voit Jésus qui fonctionne dans ce don de la parole de connaissance, et on va lire ensemble dans Luc chapitre 19. C'est l'histoire de Zachée qui est à Jéricho. Jésus passe par là. Et Zachée est dans un arbre. Donc on va lire ensemble. Verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et là, c'est vraiment une parole de connaissance. Parce que Jésus était en train de marcher. Il y avait toute une foule autour de lui. Et vous savez, quand les gens marchent en groupe, souvent on se fait un petit peu bousculer.
Et
je pense que Jésus n'était pas en train de marcher comme ça. N'est-ce pas? Il regardait comme une personne normale, il regardait où il mettait les pieds. J'espère que vous regardez où vous mettez les pieds quand vous marchez. Bon, peut-être pas comme ça non plus, mais au moins comme ça. Amen. Donc Jésus marchait comme n'importe qui marche. Et juste au moment où il arrive devant cet arbre, il reçoit une révélation. Ce n'est pas parce que c'était Jésus. Jésus qui connaît tout, Jésus qui sait tout. Non, 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 non. Parce que Jésus sur cette terre a marché comme un simple homme, revêtu du Saint-Esprit. Et à chaque fois qu'il y avait quelque chose de surnaturel ou de miraculeux qui se produisait, c'est au travers de sa vie, c'était par un don spirituel. Soit un don, soit un autre. Donc, Jésus se retrouve devant l'arbre et là, il reçoit une révélation. Une révélation qui est double, d'ailleurs. Même triple. Premièrement, il y a un homme dans l'arbre. Deuxièmement, cet homme s'appelle Zachée. Et troisièmement, tu dois aller dans sa maison. Vous savez, ce n'est pas sans raison que toutes ces choses sont arrivées. Toutes ces choses sont arrivées et ça a produit dans la vie de Zachée la repentance. Recevoir une parole de connaissance, ça n'a rien à voir avec la voyance. Je vois quelque chose. Demain, il va faire jour. Quand on reçoit une révélation, ce n'est pas juste pour avoir une information. Ce n'est pas pour qu'on puisse frimer.
Hé,
Alice, Dieu m'a parlé. Demain, il va faire jour. Je suis plus spirituelle que toi. Vous savez, on doit vraiment marcher dans l'humilité. Sinon, on va recevoir peut-être une partie, mais certainement pas la deuxième partie. Et en plus, on ne saura pas quoi en faire. Et je pense que ça répond à beaucoup de personnes. Vous recevez des choses de Dieu, mais c'est comme si c'était incomplet et vous ne savez pas quoi faire avec. Et ça va vous demander une chose, d'approfondir votre relation avec Dieu. La raison de cette parole de connaissance. Parce que je vous assure que Jésus ne connaissait pas le nom de cet homme. Parce que Jésus était sur cette terre comme tout le monde. Il a reçu une révélation. Amen. Et il lui a dit, je dois aller chez toi. Et c'est là que Zachée s'est repenti. Il y avait une raison. Et chaque raison, que ce soit la première parole que nous avons vue ensemble, que ce soit la deuxième, que ce soit toutes celles que nous allons voir, ces choses servent à la gloire de Dieu. Non pas à notre gloire personnelle, mais à la gloire de Dieu. Et le but est d'amener quelqu'un soit repentant aux pieds du Seigneur, soit à la guérison, ou soit à certains changements, parce que la personne s'est vraiment mise dans des situations difficiles ou graves. Tout est orienté vers Dieu et pour la gloire de Dieu. On va lire un autre passage. Luc, maintenant on va lire dans d'autres domaines. Luc chapitre 19, verset 30. En disant, Jésus envoya deux de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondrez, le Seigneur en a besoin.
Ati niki gitumye muyizitura muramwishura muti data ujanwe ayigomba.
Je vous assure que dans le naturel, Jésus ne savait pas qu'il y avait un ânon attaché dans le village voisin. Vous allez me dire, mais peut-être qu'il l'avait vu hier. Oui, mais peut-être qu'aujourd'hui il n'y était plus. Ou peut-être que Jésus l'avait vu une heure auparavant. Oui, mais peut-être qu'au moment où les disciples allaient venir le chercher, l'ânon serait plus là. Non seulement Jésus a eu la révélation que l'ânon était bien attaché à cet endroit, mais en plus Jésus savait par révélation que quand les disciples allaient détacher l'ânon, les gens allaient dire quelque chose. Alors comprenez-moi bien, quand on lit la parole de Dieu, on voit que ce genre de situation ne s'est produit qu'une fois, dans un moment particulier, parce que c'était un moment prophétique, Jésus qui allait à Jérusalem pour la dernière fois. Avant d'être livré, c'était l'accomplissement de différentes prophéties de l'Ancien Testament où les gens criaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts ». Et je tiens à souligner le fait que cette parole prophétique, du moins une parole de connaissance, allait détacher l'ânon, c'est là qu'on est, C'est quelque chose que Jésus a reçu. Non pas qu'il a décidé. Amen. Il y a certains moments dans son ministère, Jésus a fait des choses qu'il a décidé de faire parce que le Père lui montrait et aussi parce qu'il voulait le faire. Il avait envie de faire certaines choses en particulier. Mais ici, clairement, il a agi par révélation, par la manifestation de la parole de connaissance. On va voir un autre domaine, un autre passage, dans Luc 22, verset 8. Luc chapitre 22, verset 8 à 10. Alors que les disciples doivent préparer la dernière Pâque pour Jésus. Verset 8. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il lui répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?»
Atuma Petero na Yohana arababwira ati, « Nimugende, mudutegurire ivya Pasika, kugira ngo turye. » Baramubaza bati, « Ugomba ko tutegurira hehe ?» Arabishura atumve mumaze gushika mu gisagara murahura n'umugabo yikoreye umubindi w'amazi mumukurikire mu rugo ajamwo mubwire nye n'urugo mutumwigishagize ngo indaro irihe ahasangira pasika n'abigishwa biwe nawe arabereka icumba kinini cyo mu nzu yo hejuru gitunganijwe abe ari cyo Amen.
Là encore, c'est une manifestation de la parole de connaissance. Pourquoi est-ce que je peux dire ça sans hésiter? Parce que porter des cruches d'eau, aller puiser de l'eau, ce n'était pas du tout le travail des hommes. C'est les femmes qui faisaient ça. Et quand on ne connaît pas les coutumes de l'époque, on peut se dire, bon, les hommes puisaient de l'eau, les disciples ont trouvé le premier venu, et puis c'est certainement quelqu'un qui connaissait Jésus. C'est pas du tout comme ça. C'est quelque chose qui était absolument inhabituel. Et ça correspondait à un temps particulier, à un besoin particulier. Et celui qui a donné cette révélation, c'est le Saint-Esprit. Amen. N'essayons jamais de fabriquer des révélations quelles qu'elles soient. Une autre parole de connaissance que Jésus reçoit aussi face à un besoin particulier, c'est dans Matthieu chapitre 17, verset 27. Matthieu chapitre 17, verset 27. Lorsqu'il se trouve confronté au péager, ils doivent payer le péage. Matthieu 17, 27. Donc Jésus va dire, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi.
Uterere mwigera wabire ifi iri bubanze gufatwa uyasamike urasangamwo shekeri abe ariyo ujana uyitange kubwanje nawe.
Amen. J'aimerais bien que peut-être vous vous posez la question, mais d'où venait ce stataire? Est-ce que miraculeusement Dieu a mis une pièce de monnaie dans la bouche du poisson? Qui aimerait savoir? Eh bien non, Dieu n'a pas mis, je vais vous dire, Dieu n'a pas mis une pièce de monnaie dans la bouche du poisson. Parce que dans le ciel, il n'y a pas de pièce de monnaie. Amen. Dans le ciel, il n'y a pas de billets de banque. Dans le ciel, il n'y a aucune de ces choses. Donc Dieu ne pouvait pas prendre, fabriquer dans le ciel une pièce de monnaie pour la mettre dans la bouche du poisson. Parce que ça aurait été de la fausse monnaie. Amen. Simplement, quelqu'un avait dû perdre cette pièce d'une façon ou d'une autre. Et d'une façon assez incompréhensible, le poisson a avalé la pièce. Parce que la pièce devait être brillante. Donc Dieu n'a pas pris la pièce pour la mettre dans la bouche du poisson. Mais Dieu savait que dans la bouche du poisson, il y avait une pièce de monnaie que Jésus en avait besoin. Vous voyez, il y a une différence entre le surnaturel et le magique. Dieu n'est pas magicien. Il est un Dieu de surnaturel. Et il a donné cette révélation à Jésus. Et Jésus a donné cette parole. Et bien sûr, comme ça venait de Dieu, ça a marché. Amen. Parce que les paroles qui viennent de Dieu fonctionnent et produisent un résultat. Dieu aurait pu utiliser un autre moyen pour que Jésus puisse payer cette taxe. Mais là, c'est le moyen qui a été choisi. Et entre autres pour nous instruire. Donc on voit la parole de connaissance qui se manifeste pour aider les pharisiens à sortir de leur esprit religieux. Une autre parole qui sert à Zachée pour qu'il puisse se repentir. Et il l'a vraiment fait d'ailleurs. Mais on a vu ensuite trois paroles qui ont été des révélations qui ont permis à ce que les besoins de Jésus soient pourvus. On va voir une autre parole qui est manifestée d'une façon un petit peu différente mais qui est très intéressante. Et au travers de cette parole, Jésus a pointé le doigt sur un problème particulier dans le but d'aider quelqu'un. Et cette personne en question, c'est le jeune homme riche. Donc ce jeune homme riche a une question: comment faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus va lui dire les commandements. Il va pas commencer par le premier d'ailleurs, parce que le premier commandement c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, n'est-ce pas? Et Jésus ne commence pas avec ce commandement là parce que c'est avec ce commandement là que le jeune homme riche a un problème. J'aimerais vous dire une chose. Parfois, nous avons des problèmes. Des problèmes de personnalité. Des problèmes de caractère. On ne s'en rend pas compte. Qui s'en rend compte? Premièrement, bien sûr, le Seigneur, on ne va pas le nier. Et deuxièmement, notre entourage. Amen. Les personnes qui nous sont proches, souvent, nous connaissent mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Donc, ce jeune homme avait un problème. Il pensait aimer Dieu. Et il l'aimait certainement. Mais pas de tout son cœur. Pas de toute sa force. Pas de toute sa pensée. Il n'était pas prêt à tout pour Dieu. Et Dieu veut que nous l'aimions de cette manière-là. C'est ce que le Seigneur attend de nous, que nous l'aimions plus que tout, plus que n'importe qui, que nous soyons prêts à tout pour lui, à tout quitter, à tout abandonner, à tout donner, parce qu'il en est digne. Amen. Et ça, c'était le problème de ce jeune homme. Jésus lui dit, tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Verset 21. Luc 18, verset 21. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Luc 18, 21.
Aramubwira ngo ati byo byose narabyitondeye mpereye mu buto bwanje.
Et écoutez bien le verset 22. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Là vraiment, je suis dans une profonde admiration. Parce que je vois l'amour du Seigneur. Je vois sa sagesse. Parce que là, le Seigneur a une révélation par rapport au problème de ce garçon. Il aime Dieu, ça c'est sûr. Mais il a besoin de son argent. Parce que son argent, c'est sa sécurité. Vous savez, on peut être attaché à l'argent pour différentes raisons. Il y a des gens qui sont attachés à l'argent par convoitise. D'autres, c'est pour se payer tout un tas de choses. D'autres, c'est pour frimer. Et d'autres encore, c'est qu'ils pensent que s'ils ont de l'argent, ils seront, attends voir un peu, s'ils ont de l'argent, ils seront à l'abri des problèmes. C'est exactement l'histoire de la parabole dont Jésus parle en disant, il y avait un homme qui avait eu de grandes récoltes. Et cet homme est en train de se dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais abattre mes greniers, je vais en construire de plus grands. Et je vais me reposer et profiter de la vie. Et Jésus dit, mais Dieu lui dit, insensé. Ton âme va t'être redemandée cette nuit et tout ce que tu as préparé, ça va être pour qui? Donc ça, c'est vraiment le cas de ce jeune homme. Il aime Dieu, mais il est attaché à son argent. Il a besoin de son argent. Il a besoin de se sentir en sécurité. Et regardez la délicatesse. Jésus ne lui dit pas, toi, tu sais, de toute façon, tu n'aimes que l'argent, tu n'es même pas capable de m'aimer et de me suivre, donc tu as un problème. Vous savez, parfois, quand les gens ont des problèmes, il faut leur dire. Et dire quand même, tu exagères là. Ce que tu fais, ça ne va pas. Je ne suis pas d'accord. Tu as un problème. Parfois, il faut le faire. Amen. Non? Merci. Il faut le faire. Il ne faut pas le faire n'importe comment. Parce qu'on n'est pas là pour blesser les autres. Amen. Et parfois, il ne faut pas le faire d'une façon directe.
Parce
que si Jésus avait dit à ce jeune homme, toi, mon garçon, tu as un problème avec l'argent. Le garçon aurait dit, mais non, pas du tout. Mais absolument pas. Comment peux-tu me dire une chose pareille? D'ailleurs, tu ne me connais pas.
Vous
voyez, il aurait pu, s'il l'avait dit de cette manière-là, le jeune homme aurait pu réagir d'une certaine manière. Moi, j'aime Jésus, vraiment. Jésus reçoit cette révélation et il amène ça devant le garçon d'une certaine manière et le garçon ne peut rien répondre. Parce que c'est vrai. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'il fait? Il part tout triste. Un jour, j'ai entendu, et comme je ne suis pas sûre parce qu'il n'y a pas vraiment moyen de le vérifier, j'ai entendu dire que ce jeune homme en question, c'était Barnabas. Alors si c'était lui, vous voyez, après il s'est repenti.
Amen.
Autre chose, un autre moment où Jésus va utiliser la parole de connaissance. Luc chapitre 20. Luc, chapitre 20, versets 21 à 25. Ces gens lui posèrent cette question. « Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César ?»
Baramubaza bati mwigisha turazi yuko uvuga kandi wigisha neza kandi kudatinya ijunja ry'abantu ariko ko wigisha inzira y'Imana by'ukuri mbega biremewe ko dutanga ikori rya Kayisari canke ntivyemerewe.
Lisons ensemble vraiment avec beaucoup d'attention le verset 23.
Reka dusomere hamwe ku murongo wa 23.
Jésus apercevant leur ruse. Jésus apercevant leur ruse. Là, Jésus va avoir la révélation que ces gens sont juste en train d'essayer de le piéger. Vous savez, on a vraiment besoin d'apprendre à écouter le Saint-Esprit. Ça nous évitera bien des problèmes. Ça nous évitera de tomber dans des pièges. Amen. Il a eu cette révélation. Ces gens-là veulent te piéger. Et là encore, Jésus répond avec beaucoup de sagesse. Il
ne
va pas leur dire mais n'importe quoi. Vous me prenez pour qui là? Je sais ce que vous êtes en train de faire. Vous voulez me piéger. Mais au nom de Jésus, je vous ordonne de vous taire. Donc si Jésus n'a pas fait ça, pourquoi est-ce que tu le fais? Ah. Jésus va leur clouer le bec avec une sagesse qui n'est pas naturelle, qui n'est pas normale. Et c'est normal parce que Jésus est la sagesse incarnée. Il
ne
va pas se fâcher. Il ne va pas être déstabilisé. Il va dire, apportez-moi une pièce. De qui porte-t-elle l'effigie? Là, ils sont obligés de répondre, bah, c'est la tête de César qui est là-dessus. Alors, rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et tout le monde a la bouche fermée. pas besoin de discuter pendant des heures. Amen. Amen. Jésus est la sagesse incarnée. Il est notre sagesse. On va lire un verset, ensuite on va aller dans l'Ancien Testament. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. C'est pour cela que vous êtes en Jésus, en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Amen. Pourquoi est-ce que Jésus a été fait sagesse pour nous? Parce que dans l'homme, il n'y a pas de sagesse. Amen.
Amen.
Dans certains hommes, il y en a un petit peu, mais pas toujours bien orienté. Et dans la plupart des hommes, il n'y en a pas beaucoup, voire pas du tout. Je sais que chacun d'entre nous, moi y compris, nous pouvons témoigner des... On pourrait même écrire un livre plus gros que ça. Sur toutes les fois où nous avons manqué de sagesse, dans nos paroles, dans nos actions, et de nous rappeler le cortège de problèmes qui nous a accompagnés et qui parfois nous accompagnent encore parce qu'on a manqué de sagesse. Ça a amené tel problème qui s'est enchaîné avec tel problème et tel problème. Et le manque de sagesse, parfois ça fait l'effet boule de neige. Vous savez, les montagnes enneigées, il y a un petit caillou qui se détache de la montagne et qui commence à rouler, à rouler, à rouler. Et comme la neige s'émoue, le caillou se charge de neige et devient de plus en plus gros. Et quand il arrive en bas, c'est un truc énorme. Je ne veux pas parler ce soir de la sagesse dans tous les domaines de notre vie. Mais je veux vous interpeller quand même, parce que le diable n'est pas l'auteur de tous nos problèmes. Il est l'auteur d'une certaine partie de nos problèmes, mais pas tous nos problèmes. Bien souvent, c'est notre manque de sagesse dans nos décisions, dans nos choix, qui nous ont amenés dans des problèmes. Maintenant, je veux revenir à la parole de connaissance. Parce que la parole de connaissance doit être utilisée avec une sagesse surnaturelle. On va regarder ensemble quelque chose qui s'est passé dans 2 Rois, chapitre 1. C'est aussi un passage qui m'a beaucoup parlé depuis un certain nombre d'années. Quand Élie va être enlevé au ciel, on lit verset 2, 2 Rois chapitre 2, verset 2. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Il va lire le verset 3.
bashitseyo abigishwa abigishirizwa ibeteri ibyo kuvugishwa baza gusanganira Elisa baramubaza bati harya urazi yuko uyu munsi uhoraho agiye kukwaka shobuja arabishura tego yego mendabizi ariko nimupfe gucereza.
Vous savez, il y a des personnes qui ont une perception des choses qui sont en train de se produire, mais qui ne les comprennent pas.
Vous
voyez ici, dans ce passage, Élie était sur le point d'être enlevé. Il y avait trois groupes de personnes qui le savaient. Premier groupe, Élie. Deuxième groupe, Élisée. Et troisième groupe, là c'était un groupe beaucoup plus grand, les fils des prophètes. Amen. Élie savait qu'il allait être enlevé. Parce que Dieu lui avait dit avant, il y a longtemps, qu'il devait donner sa place à Élisée. Élisée savait que Élie allait être enlevé. Parce que quand les fils des prophètes lui disent, tu sais que ton maître va être enlevé au-dessus de ta tête, Élisée va répondre, je le sais. Mais taisez-vous. Pourquoi on se demande, mais pourquoi Élisée va leur dire taisez-vous? Parce que Élisée comprenait, il savait très bien que ces personnes avaient une révélation, mais qu'ils allaient mal l'interpréter ou qu'ils n'allaient pas savoir quoi faire avec. Donc au final, ça risquait de déstabiliser Élisée.
Vous
voyez, ces fils des prophètes, la seule chose qu'ils savent dire, Élie va être enlevé. Élie va être enlevé. Élie va être enlevé. Et Élisée dit, et alors, tu penses que je ne le sais pas? Je le sais. Et taisez-vous. On voit que les fils des prophètes, c'est ce groupe de personnes, ils sont à ce niveau-là. Ils savent qu'il y a quelque chose, mais ils ne savent rien de plus. Et ils ne savent pas quoi faire avec. Vous savez, parfois, on peut recevoir quelque chose de Dieu et on ne sait pas quoi faire avec. Et moi, j'ai vu dans le passé, il y a différents moments, il y a longtemps de ça d'ailleurs, des personnes qui reçoivent authentiquement quelque chose de Dieu. Mais vous savez comme moi, quand Dieu parle, généralement, ça tient en une phrase. Amen. Dieu n'est pas tellement bavard. Il ne parle pas pour parler ou pour rien dire. Quand Dieu parle, il va à l'essentiel. Et il reste dans les choses importantes. Pourquoi? Parce qu'il veut être sûr que nous allons bien comprendre ce qu'il dit. Jésus dit, je le veux, sois pur. Lève-toi et marche. Va te laver au réservoir de Siloé. Jésus ne fait pas des discours. Amen. Parfois, il a enseigné, il a parlé longuement, on est d'accord.
Mais
quand Jésus parle par rapport à une situation ou par rapport à une chose qu'il veut faire, lisez et relisez la Bible, j'espère que vous avez la même que moi. En principe, ça tient en une phrase ou deux phrases. Et souvent, ce que j'ai vu, des personnes y reçoivent vraiment quelque chose de Dieu. Mais comme ça tient qu'en une phrase ou deux phrases, ils se sentent obligés de rajouter leur interprétation personnelle. Premièrement, ou de rajouter quelque chose à ce que Dieu a dit. Parce qu'ils se disent quand même, c'est pas tout à fait suffisant. Ce qui compte, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Notre interprétation n'a pas de valeur. Amen. Sauf si elle est inspirée, bien sûr. Et ce qu'on rajoute, souvent ça bousille tout. Donc, Élisée, il avait quelque chose en tête. Parce que bien des années avant, exactement 11 ans avant, il a vécu un moment particulier dans sa vie. Dans 1 Roi chapitre 19, Élie va s'approcher d'Élisée. Verset 19 plutôt. Élie partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Verset 19. Et après ça, Élisée dit, laisse-moi aller en dire au revoir à ma famille. Et Élie lui dit, d'accord.
Et
il lui dit une chose vraiment que j'aimerais que vous graviez dans vos cœurs pour vous-même. Il lui dit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Pense à ce que je t'ai fait.
Et
c'était une parole qui venait du Seigneur. Pense à ce que je t'ai dit. Pense à ce que je t'ai promis. Et continue d'y penser. Ne l'oublie pas. Dans les moments d'incertitude, dans les moments de trouble, dans les moments de confusion, dans les moments de difficulté, pense à ce que je t'ai fait, pense à ce que je t'ai dit. Et ça, c'est la différence qu'il y avait entre Élisée et les autres. Les autres, ils avaient, bon, une révélation, mais ils
ne
se sont jamais posé la question. Tiens, pourquoi est-ce que Dieu me parle comme ça? Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire au travers de cette révélation? Pourquoi es-tu en train de me dire que Élie va être enlevé? Et je suis persuadée, vraiment je suis persuadée, que si les autres avaient eu la même profondeur que Élie, que Élisée, s'ils avaient eu la même profondeur que Élisée, ils auraient été avec Élisée en train de suivre Élie. Sauf que ces gens-là, ils sont restés chez eux. Et on voit une chose, c'est que moi j'ai regardé sur ma carte, j'ai pris un peu des mesures. Eh bien, Élisée est à Gilgal, il va à Bethel, puis ensuite il va à Jéricho, et puis ensuite il va au Jourdain. Et quand on regarde sur la carte, on voit une chose, c'est que Élie, il a fait tourner Élisée en rond. Il a fait pratiquement un cercle. Et ce cercle veut dire, est-ce que tu es sûr de ce que tu veux? Est-ce que tu crois dans la parole que je t'ai annoncée il y a 11 ans? Est-ce que tu continues? Est-ce que tu persévères? Est-ce que tu crois que ces promesses vont s'accomplir? 25 km pour aller de Gilgal à Bethel. 25 km pour aller de Bethel à Jéricho. Vous savez, quand on fait 50 km, on a le temps de réfléchir. C'est pas marcher depuis ici jusqu'à la porte d'entrée. 25 km, deux fois, et ensuite une fois qu'ils sont arrivés à Jéricho, environ 10 km pour aller jusqu'au Jourdain. Dans la vie, parfois, on a reçu des paroles de Dieu et on a l'impression qu'on est en train de tourner en rond et qu'on va nulle part. Sauf que quand tu marches sur ce que Dieu t'a dit, tu vas quelque part. Et c'est ce qui s'est passé pour Élisée. Il avait cette compréhension. Élie va être enlevé. Mais ce qu'il m'a dit, j'y pense encore. Hébreux chapitre 6, verset 12. Et on va finir avec ça. J'espère que ça vous aidera à comprendre la raison de la parole de connaissance. Ce n'est pas pour nous faire briller. Ce n'est pas pour nous faire nous sentir mieux. Mais c'est pour nous aider et pour glorifier Dieu. Hébreux chapitre 6, verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen.
Kugira ngo nimube ibinebwe ariko mwigane abaheshwa no kwizera no kwihangana kuragwa ivyasezeranwe.
Ce que j'aimerais, et je vais finir avec ça,
icyo nifuza kandi ngo bamperaheza,
c'est souligner le fait
que
Jésus n'était pas en train de chercher des paroles.
Nukubwira ngo Yesu ntiyari karondera amajambo.
Élisée non plus.
Na Elisa uko nyene.
Les autres prophètes non plus. Dieu nous parle quand il le veut. Ne recherchons jamais des paroles. Mais soyons ouverts en disant, Seigneur, tu connais toutes choses. Tu sais ce dont j'ai besoin. Tu sais ce que j'ai besoin de savoir. Que ce soit pour ma propre vie. Que ce soit pour ma famille. Que ce soit pour mon travail. Que ce soit pour le service. Parce que nous sommes tous appelés à servir Dieu. Parle-moi quand tu veux. Et comme tu veux. Je suis ouvert à ce que tu veux me dire. Je veux marcher avec toi. Et face aux problèmes, face aux difficultés, je suis persuadé que tu me parleras et tu me montreras comment en sortir. Amen. La parole de connaissance a une raison et elle a un but. Elle vient de Dieu et elle est là donné pour nous amener quelque part. Et toujours parfois dans la manifestation surnaturelle de d'autres dons. Parole de connaissance peut être accompagnée de la parole de sagesse, c'est-à-dire une parole qui concerne l'avenir. Ou parfois la parole de connaissance ouvre la porte au don des guérisons. Ou des miracles, parce que il y a des personnes qui ont ce ministère et qui peuvent dire, parce que le Seigneur leur dit, il y a ici quelqu'un qui souffre de l'estomac, Dieu te guérit. Et ça, c'est une parole qui est un peu vague. Moi, j'ai entendu des fois des paroles qui étaient extrêmement précises. dans des réunions où il y a tellement de personnes qu'on ne peut même pas voir les gens parce qu'ils sont tellement nombreux. Des paroles du style dans la section H, au quatrième rang, et la section H est tellement loin qu'on ne la voit même pas. Quatrième rangée, huitième siège, il y a une femme qui porte une robe verte qui s'appelle Marie, et le Seigneur l'a guérie de telle et telle chose. Ça, c'est extrêmement précis comme parole. Amen. C'est spectaculaire. Vous savez, on ne cherche pas vraiment forcément le spectaculaire. Celui qu'on cherche, c'est le Seigneur. Et on veut lui laisser la porte pour qu'il puisse agir de manière spectaculaire. Non pas pour qu'on nous applaudisse, mais pour que le monde soit sauvé. Amen. Bonne soirée à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.